Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
Installées dans une maison à Crouy-sur-Ourcq, dans le 77 de Seine-et-Marne, des femmes sans papiers, avec enfants, réapprennent à vivre en communauté. Des mères étrangères en très grande précarité, avec leurs enfants, accueillies depuis 2005 au foyer de l'association Saint-Benoît. Je vous propose d'écouter le père Philippe à l'origine de ce projet.
Bonjour Frédéric, me voici donc avec vous pour quelques temps. Donc je suis curé de Chelles, mais auparavant j'étais aumônier de maternité et d'hôpital à Paris pendant quelques années. Et pendant ce temps, j'ai eu l'occasion de travailler avec le service social de l'hôpital pour des femmes qui se retrouvaient dans la rue en sortant de maternité. Beaucoup étaient sans papier, et avec un autre prêtre qui s'occupait du secours catholique dans le Val d'Oise, le père Édouard, nous avons décidé il y a maintenant 13 ans de fonder ce foyer pour accueillir des jeunes femmes en difficulté avec des enfants ou bien enceintes et leur permettre de s'insérer dans la société française.
Donc ce sont des mamans qui viennent de l'étranger ou de France ?
Au début c'était partout et puis petit à petit nous nous sommes spécialisés dans des femmes en situation irrégulière mais en voie de régularisation, soit enceintes, soit avec des petits-enfants. Et c'est ainsi qu'on a constitué cette communauté de vie. Parce que souvent, elles étaient dans la rue à droite à gauche et ça déstructure complètement les personnalités et les familles. Et puis en même temps, on fait un suivi juridique de leur dossier de façon à le mener à bien, ce qui peut quelquefois prendre du temps.
Alors qu'est-ce qu'elles peuvent y trouver ces femmes ici dans ce foyer ? Donc comment se passe l'accueil ?
Eh bien d'abord, un lieu d'hébergement. Pour beaucoup, elles ont été à droite, à gauche et ça abîme beaucoup les personnes. Et puis c'est mauvais pour la santé. Elles apprennent à vivre ensemble, ce qui est loin d'être facile, de se répartir les tâches communes, chacune à sa chambre avec ses enfants, mais il y a un salon, une salle à manger, une cuisine et un jardin, et elles doivent, sous la direction d'une maîtresse de maison, œuvrer de façon à ce qu'il y ait une certaine harmonie. Elles apprennent aussi à gérer un budget, à gérer leur temps. Beaucoup ont du mal à planifier leur vie, et c'est important d'avoir un minimum d'agenda. Et puis il y a une dimension spirituelle. La plupart, sinon la totalité des femmes que nous recevons sont croyantes, quelle que soit leur religion, et c'est important qu'elles puissent exprimer leurs croyances ici avec les autres.
Alors comment ça se passe ? Comment vous avez des dossiers ? Comment vous récupérez ces femmes ? Alors vous avez quelqu'un qui s'occupe de leur situation et qui vous contacte ? Comment ça se passe ?
Eh bien, au début, j'avais un petit carnet d'adresses avec l'hôpital où j'étais aumônier. Ce carnet d'adresses est grossi, celui du père Édouard aussi. Donc nous avons un certain nombre de services sociaux qui nous contactent en disant, voilà, nous avons une femme et des enfants. Nous ne pouvons pas les prendre dans les structures habituelles parce qu'elles ne sont pas encore, par exemple, régularisées. Est-ce que vous pouvez le faire ? Et donc, on accueille ces femmes venant des services sociaux, quelquefois d'associations comme le Secours catholique ou le Bus des femmes ou d'autres associations encore.
Alors, vous êtes à Chelles, donc ce n'est pas à côté de Crouy-sur-Ourcq quand même. Alors, comment vous vous organisez ? Vous êtes présent plusieurs fois par semaine ici ?
Alors, il y a une maîtresse de maison et puis les femmes que nous accueillons sont des femmes adultes et qui savent à peu près s'occuper, disons, d'elles et de leurs enfants. Le tout est d'assurer une coordination. Et puis le père Édouard passe une fois par semaine, je passe deux fois par semaine pour faire un peu le point avec nos résidentes et puis regarder un peu où en sont les dossiers. Alors nous cherchons un endroit calme parce que beaucoup ont été dans la turbulence à Paris et il faut qu'elles retrouvent, je dirais, un peu de repos et de tranquillité. Mais en même temps, il faut que ça soit pas trop loin de Paris. Donc Crouy-sur-Ourcq permet d'être à Paris en une heure. Il y a un grand jardin de 1500 m², clos de murs. Donc ça, c'est bien pour les enfants. Et puis, il y a sept pièces qui nous permettent donc de recevoir... Enfin, sept chambres qui nous permettent de recevoir au maximum sept femmes. Voilà, enfin, c'est comme ça que ça tourne.
Elles peuvent résider combien de temps ici, alors ? Il y a un minimum ou un maximum de temps ?
Alors, le critère principal... c'est la régularisation. Donc elles restent là le temps de leur régularisation. Alors, au début, c'était relativement court, 4 mois, 5 mois. Actuellement, c'est plutôt 17 ou 18 mois, les procédures s'étant considérablement complexifiées.
Contact avec la préfecture?
Oui, avec la préfecture, avec la CAF, avec les différentes administrations concernées, ainsi qu'éventuellement plusieurs avocats. Personnellement, j'ai été aumônier de prison pendant 11 ans et aumônier des avocats de Paris pendant 5 ans. Donc ça me permet d'en connaître un certain nombre, si besoin est.
Ce sont des réfugiés de quel ordre? Alors, ce sont des réfugiés d'ordre politique, d'ordre des problèmes de guerre là-bas dans leur pays ou...
Toutes sortes de motifs. Le premier critère pour moi, c'est l'état de détresse avec des enfants. Et puis, certaines sont réfugiés politiques ou religieux. D'autres, je dirais, sont arrivés en France à cause de la misère dans leur pays. D'autres sont sortis de la prostitution. Voilà, les situations sont très variées. On a surtout des mères d'un enfant français, des mères d'un enfant malade, et puis des personnes qui ont dû échapper à des violences, soit dans leur pays, soit en France.
Donc là, on parle beaucoup d'immigration, on parle beaucoup de ces problèmes, c'est dans l'actualité, quoi. Avez-vous un message à passer à nos auditeurs? Comment peut-on aider ces gens? Parce que vous, vous les aidez. Est-ce que nous, on peut avoir une action aussi au quotidien?
Oui, tout à fait. Et ce qui se passe sur Crouy, pour moi, est un peu un modèle. À savoir que quand nous sommes arrivés il y a 13 ans ici, j'avais un peu peur. Crouy, ce n'est pas la porte à côté par rapport à Paris. Et je craignais qu'il y ait un phénomène de rejet. Et je dois dire que j'ai beaucoup apprécié l'accueil de la population. Et nos résidentes sont, me semble-t-il, bien insérées dans le tissu local et qui leur permet justement de s'insérer déjà dans cette mentalité, cette culture française qui me paraît tellement importante. Elles participent à des festivals, à des ateliers, à des danses, et je trouve que qu'elles participent à la vie locale, pour moi, est une priorité. Et je suis très reconnaissant à la population de Crouy à cause de cela.
Oui, parce qu'on a tous la peur un peu de l'immigré, quoi. Ça fait toujours un peu peur aux gens. Et est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce qui fait peur de ça? C'est peut-être de l'inconnu de l'autre, de ne pas connaître l'autre?
Alors il y a des préjugés, oui. Mais je dois dire que le français a toujours été curieux, disons, de l'étranger. Il n'y a qu'à voir à Paris le nombre de restaurants étrangers. Il y a à la fois une méfiance et une bienveillance. Et le tout, c'est d'utiliser la bienveillance ou la curiosité de beaucoup de nos compatriotes, je dirais, pour remuer les préjugés. Et puis en même temps, faire découvrir le vrai visage de la France.
En tant que curé, c'est un message que vous passez dans vos discours à vos paroissiens?
Ben, oui, il y a ça. Et puis il y a le fait aussi que quand des personnes sont dans la misère, il ne faut pas faire des considérations générales et abstraites en disant « je suis pour, je suis contre ». Il faut agir et prendre des initiatives pour accueillir, accompagner. C'est vraiment indispensable. Alors, on n'accueille pas n'importe comment. On ne dit oui, il ne s'agit pas de dire oui à n'importe quoi, il s'agit simplement de permettre un contact constructif où les uns et les autres découvrent leurs richesses et leurs exigences.
Alors on parle beaucoup de Calais, bien sûr, parce que là-bas c'est beaucoup d'hommes, c'est une majorité d'hommes, je crois qu'il n'y a pratiquement pas de femmes qui sont là-bas. Est-ce que vous avez des actions pour les hommes? Est-ce que vous faites des choses?
Non, il s'est trouvé que j'ai été aumônier d'hôpital et concerné par la maternité. Ma compétence, c'est plutôt les femmes et les enfants que les hommes, tout en sachant qu'il y a aussi des problèmes réels chez les hommes. Mais j'avoue mon incompétence pour accompagner des hommes.
Alors quel regard vous portez sur cette situation là-bas à Calais?
Ben, c'est un peu un drame de grand désordre qui blesse tout le monde, aussi bien la population calaisienne que la population étrangère qui se masse dans une attente d'un passage hypothétique. Alors c'est bien compréhensible parce que la plupart sont des réfugiés politiques qui ont fui des situations atroces, mais la gestion actuellement est largement insuffisante. Ceci dit, personnellement, je ne connais pas suffisamment le problème de Calais pour porter un jugement définitif.
Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur le foyer Saint-Benoît à Crouy-sur-Rourque?
Actuellement, nous avons encore une chambre de libre.
D'accord.
Mais voilà, l'essentiel chez nous, c'est l'hébergement, l'apprentissage de la vie communautaire, et puis se préparer à rentrer vraiment dans la société française. Actuellement, il y a des cours de français qui sont donnés, grâce entre autres à des bénévoles de Crouy. Il y a, je dirais, un atelier de couture et de maroquinerie avec lequel nous sommes en lien sur Paris et qui permet aux résidentes de se qualifier dans ces domaines-là et de fabriquer des petits objets. Voilà, le tout, c'est que ce temps d'attente qui malheureusement est long soit profitable d'abord pour apprendre la vie communautaire, pour gérer son temps et pour obtenir une qualification.
Et pour obtenir aussi la nationalité française, c'est possible ?
Ça, c'est une autre paire de manches.
Oui.
Le tout, c'est déjà avoir sa place, pouvoir travailler, pouvoir se loger, pouvoir fonder une famille ou la continuer. Ça, c'est l'essentiel. La nationalité française, c'est un autre problème.
Vous les mettez en autonomie, quoi. C'est votre projet.
Oui, absolument. Mmh. Et dès qu'elles sont en situation régulière, elles doivent quitter le foyer pour laisser place à d'autres.
Très bien. Écoutez, merci Père Philippe. Et un message aux auditeurs.
Eh bien, tout le monde est bienvenu dans notre foyer pour le visiter, donc à Crouy. Et les résidentes sont toujours contentes de voir des têtes nouvelles et bienveillantes.
Le principal contributeur du foyer Saint-Benoît est la Fondation Notre-Dame, ainsi que des donateurs privés. Voici l'adresse du foyer Saint-Benoît, 7 avenue de Coulon, 77 840 à Crouy-sur-Ourcq. Merci au Père Philippe. Je vous propose de retourner au foyer Saint-Benoît dans un prochain reportage pour écouter le témoignage d'une résidente du foyer. À bientôt sur RVM 93.7, l'oreille dans le coin. Bonne écoute sur RVM.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
À très vite sur l'antenne d'RVM.